La tradition, du moins du côté d'Israël, de la Terre Sainte, hein, situe cet événement de la transfiguration sur la montagne du Tabor, qui est vraiment proéminente, comme dit l'Évangile, sur la plaine de la Shephela, sur la plaine. La tradition libanaise veut situer cet événement sur le mont Hermon. Eh oui, c'est du côté libanais, là. Chacun sa montagne de transfiguration, nous l'avons ici. Mais ce qui est intéressant, vraiment, qui nous interpelle, c'est... Bon, les disciples montent, hein, comme les enfants de cœur, là, ils gravissent la montagne. Ils sont trois, Pierre, Jacques et Jean. Ils arrivent, ils découvrent que Jésus se transforme. Il y a deux personnages en plus, donc ça faisait déjà trois plus un, Jésus, ça faisait quatre. Maintenant, il y a Moïse et Élie, ça fait six. Et puis, un comble, une nuée qui arrive, la voix du Père qui se manifeste, l'Esprit Saint, ça fait deux de plus. Et on arrive à combien ? On est déjà à huit. Sans parler de nous, qui regardons ça un petit peu de loin. C'est vraiment un épisode de la parole de Dieu qui circule dialogique, quoi. C'est un vrai dialogue et il se passe quelque chose qui transforme, ça c'est sûr. Et puis à la fin, les disciples, puisqu'ils étaient déjà fatigués au début, ils prennent des essuie-glaces et puis ils voient plus personne, il n'y a plus que Jésus. Une fois que la voix du ciel a dit, ben, écoutez-le, c'est mon fils bien-aimé. Alors la vraie question qu'on se pose, c'est comment écouter la parole de Dieu ? Comment l'écouter ? Parce que toutes les religions, qu'elles soient cosmiques, les religions cosmiques, qu'elles soient mystiques, comme les religions de la Grèce et de l'Inde, qu'elles soient prophétiques, comme les religions abrahamiques, judaïsme, christianisme, islam, plus sur la parole, toutes les grandes religions, les bouddhistes aussi, ils ont des écritures sacrées. Mais alors, si on dit qu'il faut écouter les Écritures, on est quand même dans l'embarras en tant que chrétien. Quelle est notre approche des Écritures ? Parce que chaque religion a une approche différente de ses propres Écritures. C'est différent. C'est pas à nous de juger, mais en se situant comme disciple de Jésus, comment est-ce que j'écoute la parole de Dieu, quel est mon rapport aux Écritures, dans quel cercle d'interprétation interprétatif, parce que faut reconnaître qu'il fut un temps et qui n'est pas très révolu avant le Concile Vatican II, enfin entre le Concile Vatican I et Vatican II, on n'avait encore pas tellement accès aux Écritures. Même Thérèse de Lisieux disait, je vais faire comment là pour lire les Écritures ? Alors je débrouillais, tu es un peu rusé, mais on n'avait pas accès, on n'avait pas le droit de lire les Écritures. Les catholiques, les protestants, c'est différent. Et puis la manière de voir un petit peu la révélation, hein, chez nous, au-delà des révélations dans les autres religions, des autres écrits, qu'est-ce qu'on nous faisait entendre ? Que plus ou moins il y avait un catalogue de vérités sacrées et que l'Église était simplement, elle était l'intermédiaire, la médiatrice de ces vérités sacrées. Donc un catalogue des vérités, on lit pas la parole de Dieu, c'est pas la peine, les Écritures, et l'Église, elle dit tout. Bon. Mais les temps ont bien changé. Depuis Vatican II, on a remis en évidence quelque chose qui a habité l'histoire de l'Église tout le temps. Mais quelle est la différence alors entre notre approche des Écritures et celle de ces autres religions cosmiques, prophétiques, mystiques ? Or, les mystiques, c'est facile. Les religions mystiques, elles disent on écrit quelque chose, mais pour rien, parce que Dieu est plus grand que tout. Donc, ce qu'on écrit n'a pas beaucoup de valeur, parce que ce qu'on vise, c'est l'union mystique. En Inde aussi, hein, l'union entre l'Atman et le Brahman, la fusion. Bon, les religions mystiques. Donc, il y a des écrits, mais on les dépasse. Et nous aussi. Hein, mais eux, c'est avec la vitesse grand V. Les religions cosmiques, qu'est-ce qu'elles disent? Bon, c'est beaucoup de religions dans le monde, hein. Les religions primaires en Afrique, des religions un peu partout dans le monde, il y a des religions qui mettent beaucoup l'accent sur la nature, sur la création, et qui mettent l'accent en disant ben, tout est signe de Dieu. Et alors on voit un signe de Dieu dans tous les éléments naturels, quoi, hein, qui renvoient vers le Créateur. Marquez, c'est pas tout à fait faux, hein. Mais le risque, c'est de faire de toute la création, à n'importe quel moment, sans distinction, une manifestation sacrée, du sacré. Tout devient sacré, tout devient sacrement. Bon. Dans les religions prophétiques, ben là, il y a l'importance de la parole par rapport au sacré de la nature. On ne peut pas oublier que les prophètes de l'Ancien Testament, du Premier Testament, ont combattu quand même, hein, toutes ces petites statuettes, toutes ces divinisations de la nature qu'on trouvait à Canaan ou ailleurs. Ah, c'était musclé, hein. Parce qu'ils disaient, notre foi, c'est dans un Dieu qui parle dans l'histoire, quoi. C'est ça que l'on regarde. C'est beaucoup plus important que de regarder les statuettes et puis les rites agraires. Non, qu'est-ce qui nous importe, disaient les prophètes. Alors là, c'est le Premier Testament. Ils disaient, mais c'est que Dieu, avant d'écrire un livre, il écrit une histoire. Ah, eh bien oui, c'est la première lecture. Abraham. Et il dit, j'ai confiance en toi, je me laisse guider par toi. Ok. Et avant de s'endormir, il commence à douter un peu. Alors il s'endort et le Seigneur lui dit, t'en fais pas, tu as confiance. Moi, je vais écrire ton histoire même pendant la nuit. Alors il sort une torche et puis il traverse les animaux qui sont découpés. C'est quoi la révélation pour le peuple d'Israël? Dieu n'écrit pas d'abord un livre. Il écrit notre histoire, à condition de savoir la vivre en étapes. C'est pour ça qu'on a la grâce de dormir la nuit, enfin pour ceux qui peuvent. C'est pour ça que les disciples y dorment. C'est pour ça qu'Abraham y dort. C'est que chaque journée est une étape nouvelle dans notre histoire. Et Dieu, plutôt que d'écrire un livre, il écrit notre histoire, moyennant la foi. Et après, ben, il y a des mots qui sont écrits sur notre histoire, des témoignages, et ça devient la Torah, ça devient le Tanakh, ça devient les Écritures saintes des Juifs. Vous voyez le rapport? C'est pas un rapport à un texte de manière fondamentaliste, non. C'est je crois que Dieu écrit mon histoire jour après jour, et je me mets en écoute, et je vis dans la confiance de manière ajustée, et là, mon témoignage peut être écrit, et il devient une écriture sainte sur Dieu qui écrit mon histoire. C'est magnifique. Mais ça, il faut le dire, ça a projeté les Juifs de manière extraordinaire. Écoutez, il n'y a qu'à regarder les prix Nobel, hein, pendant un siècle. Regardez les proportions. Il y a quelque chose de fort dans la parole de Dieu telle que le peuple d'Israël l'accueille. C'est une parole qui projette. C'est pas une parole qui fige dans de la sacramentalité, dans de la sacralité. Non, elle dit, oh, tu as confiance, tu te projettes, et demain ça ira encore mieux, et demain il y aura une nouvelle histoire encore pour toi parce que Dieu l'écrit. C'est splendide. Le christianisme. Ah, passons à la religion prophétique de l'islam, qui est très intéressante, mais on n'a pas le même rapport aux Écritures. Dans le Coran, le Coran, c'est le verbe enlivré. C'est le verbe qui devient livre. Ça veut dire que Dieu parle arabe dans le ciel et que c'est en arabe que l'archange Gabriel dicte des paroles sacrées à Mohammed et ça devient le livre du Coran. Bon, c'est un autre rapport à l'écriture, un autre rapport à la parole de Dieu. C'est une parole éternelle qui tombe dans le monde sous la forme d'un livre, et même la traduction est trahison pour le Coran. Hein, on peut pas vraiment interpréter. D'ailleurs, nos amis musulmans nous disent toujours, vous avez quatre évangiles, on a un petit peu de mal à comprendre. Nous, on a un seul Coran, il y a une seule parole. Vous avez quatre perspectives différentes, c'est déjà de l'interprétation, c'est déjà de la manipulation de la parole, oui, de la falsification. Bon, c'est un autre rapport à l'écriture, c'est un autre rapport à la parole. C'est un autre rapport. Et maintenant, le christianisme, ou l'hindouisme. Là, on est dans les religions de l'Inde. L'hindouisme, vous savez comment ça se passe. Il y a une écriture, les Védas. Les Védas, c'est le premier cycle d'écriture. Après, il y a les Upanishads, après, il y a la Bhagavad Gita, à des cycles différents. Mais ces écritures, elles rappellent avec nostalgie un passé éternel, une sorte de passé idéal qui retombe dans le monde par les avatars, de siècle en siècle, et qui rappelle un passé idéal. C'est le rapport aux écritures de l'hindouisme. C'est un rapport à quelque chose d'idéal qui est dans l'éternité des Védas. Mais alors, comment est-ce que les chrétiens interprètent l'écriture ? C'est ce qui nous intéresse. Ben, pas comme du temps de sainte Thérèse de Lisieux, mais comme du temps des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, ils disaient, nous on est juifs. Donc Dieu écrit dans l'histoire, on n'est pas une religion du livre. Dieu écrit dans notre histoire, comme il écrit dans l'histoire d'Israël, il écrit dans l'histoire de l'Église. Il écrit. Et les disciples disent, on peut s'endormir, pas de problème, parce que Dieu, il écrit le jour, mais il écrit aussi la nuit. Il n'y a pas de souci, c'est bon pour dormir, ça. Mais quand ils se frottent les yeux avec les essuie-glaces, ils se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe sur cette montagne ? Il y a Jésus, il parle tout le temps avec nous, il parle toujours avec son Père, et maintenant il parle avec Moïse et Élie. Bon, ben à certains moments, il faudra bien écrire le témoignage de ce qu'on a vécu. Et les Écritures saintes chrétiennes, c'est des mots sur un dialogue. C'est un témoignage sur des dialogues. Donc, les mots ne sont pas sacrés en tant que tels. Les Écritures saintes chrétiennes ont besoin d'être interprétées et réinterprétées continuellement. On ne se fige pas sur un mot, mais on essaye d'actualiser ce qui s'est vécu il y a 2000 ans, par exemple la Transfiguration. Et on essaye de se dire, qu'est-ce que ces mots ils nous apportent aujourd'hui en Église ? Quel sens ils nous apportent ? Comment est-ce qu'ils nous projettent pour aujourd'hui, pour demain ? Comment est-ce que Dieu va être présent demain avec nous ? Ça veut dire que, les chrétiens considèrent que, qualitativement, Jésus est la plénitude du sens, mais pas quantitativement. Ça veut dire que Jésus permet que demain, quand tu te trouves devant une œuvre d'art, tu peux avoir une révélation. Ça n'empêche pas. Dieu va te parler à travers une œuvre d'art. Il va te parler à travers une rencontre amoureuse. Il va te parler. Donc, qualitativement, Jésus est plénitude du sens, mais il ne t'empêche pas demain, en cohérence avec cette plénitude du sens, d'avoir une révélation par une œuvre d'art, par une rencontre, d'avoir une révélation en rencontrant un hindou, d'avoir une révélation en rencontrant un musulman qui va te parler de sa tradition musulmane, et tu vas dire, ça me parle. Ah, il y a quelque chose qui me parle. Ben oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a, comme dit Jean-Paul II, dans toutes les traditions religieuses, il y a des trucs qui peuvent être inspirés. Il y a des trucs qui peuvent nous inspirer demain. Dans la cohérence avec le cercle interprétatif autour de Jésus en Église, rien n'est figé. Demain, tu vas avoir une révélation. Après-demain, tu vas avoir une révélation cohérente avec la plénitude du sens en Jésus. Vous voyez, on a des rapports très différents aux Écritures. Et le rapport chrétien, ce n'est pas un rapport fondamentaliste, c'est un rapport vivant, un rapport dialogué, un rapport dans la prière, un rapport dans la rencontre avec le pauvre. Dieu parle tout le temps à nous de l'entendre, mais avec la clé d'interprétation chrétienne, c'est exigeant, mais on peut dormir.